Voilà, on est ensemble pour se soutenir les uns les autres et que ceux qui ont besoin d'être renouvelés, bah, vous puissiez l'être. Est-ce que quelqu'un pourrait me rappeler le thème sur lequel j'apporte des prédications depuis le début de cette année à peu près? La dépendance à Dieu, ouais. La dépendance à Jésus-Christ. Non, parce que si vous n'arrivez pas à le faire, soit que c'est moi qui ai à revoir ma communication, soit que c'est vous qui ayez à revoir quelque chose, soit c'est les deux. Effectivement, je vais continuer sur ce thème de la dépendance à Jésus aujourd'hui et je voudrais parler en particulier de ce qui peut se passer quand on lui fait confiance pour tout, quand on parvient à lui faire confiance pour tout. Qu'est-ce qui peut se passer? Parce qu'il se passe des choses. Il y a 15 jours, on retrouvait nos familles. Alors c'est toujours des moments très heureux, ces retrouvailles, on a du plaisir à être ensemble. Et sauf que là, il y avait un événement quand même triste, même si voilà, ça ne nous a pas empêchés d'être heureux d'être ensemble. Il y avait un événement triste, c'était le décès de notre beau-frère. Le décès de notre du père de notre beau-frère, pardon. Le décès du père de notre beau-frère. Et donc à un moment, donc on était en train de parler de cela. Lui, il nous parlait des derniers instants que son papa avait vécu. Et puis du coup, on était un petit nombre à parler de la mort. Et là, je pose cette question, mais est-ce que vous avez peur de mourir, vous? Et la réponse qu'on me fait, c'est que la plupart ont fait. Alors, plusieurs étaient chrétiens, étaient plus ou moins croyants. Et juste s'il y a des personnes parmi nous qui ont peur de la mort, sachez que voilà, vous avez un Dieu qui peut vous apporter la vie éternelle, qui est venu en Jésus-Christ, qui est mort à la croix, mais qui est ressuscité, qui vit éternellement et qui veut vous apporter la vie éternelle. Et la réponse qui a été faite, la plupart du temps, c'était: j'ai pas peur pour moi, mais par contre, j'ai peur pour ceux qui me sont confiés, j'ai peur pour mon conjoint, j'ai peur pour mes enfants si je meurs. C'est là que la mort me fait peur. Et je me disais, mais c'est vrai que déjà, ce n'est pas évident de faire confiance à Dieu pour notre propre vie, de dépendre de Dieu pour notre propre vie. Il y a des choses qui viennent nous faire peur. Et je rappelais la dernière fois combien on peut avoir tendance à vouloir contrôler les choses déjà pour notre propre vie. Et notamment, ça se manifeste par des attitudes qui peuvent être religieuses, notre attachement à des traditions dans lesquelles Dieu n'est pas forcément. Mais combien ça peut être plus difficile encore de faire confiance pour les autres, pour ceux que nous aimons, pour notre conjoint. Je pense en particulier à des dames dont le mari n'est pas chrétien, ne connaît pas Jésus. Dans la parole, il est dit, c'est par votre attitude que que votre mari sera sauvé. Et souvent, nous, on peut avoir tendance à vouloir faire des choses, à vouloir contrôler les choses, à vouloir en rajouter. Et même avec nos enfants, ça peut être pareil. Avec nos enfants, il y a plein de craintes qui peuvent nous habiter concernant nos enfants pour ceux qui sont parents. Est-ce qu'il va avoir une bonne vie? Est-ce que tout va bien se passer pour lui? Est-ce qu'il va faire les bons choix? Est-ce qu'il va se marier avec la bonne personne? Est-ce qu'il va trouver le bon métier? Est-ce qu'il va avoir une bonne vie? Est-ce que surtout rien de grave ne lui arrivera? Est-ce qu'il n'y aura pas de pourvu qu'il n'y ait pas de malheur dans sa vie? Et toutes ces choses, toutes ces craintes peuvent nous amener aussi à essayer de contrôler les choses, à essayer de contrôler la vie des autres. Et en particulier quand on est croyant, quand on est chrétien, est-ce que surtout il va suivre Dieu? Et des fois même en tant que parent chrétien, on peut essayer d'en rajouter. Parce que voilà, il y a ces craintes en nous qui nous poussent à contrôler. Combien il peut être plus difficile de faire confiance à Dieu pour ce que nous aimons et pour ceux que nous aimons, et j'étendrai aussi aux situations finalement qui nous échappent, aux situations qui sont complètement extérieures à nous, parce qu'avoir une prise directe sur notre vie, ça va encore, mais ces situations qui sont complètement extérieures à nous, sur lesquelles on ne peut pas avoir de maîtrise, qui nous échappent, là aussi, faire confiance à Dieu, combien ça peut être difficile. Et ce matin, je voudrais parler de deux personnes qui ont pu manifester cette confiance envers Dieu, qui se sont retrouvés dans une situation extrême sur laquelle ils n'avaient aucune prise. L'histoire d'un père qui a failli perdre sa fille. Sa fille était sur le point de mourir, et l'histoire d'une femme dont le corps était complètement déréglé et qui n'avait plus de maîtrise du tout sur son propre corps et qui se retrouvait dans une situation où elle était rejetée de la société. Et cette histoire, elle est dans plusieurs évangiles, mais je vais la lire dans Luc, au chapitre 8, et c'est les versets 40 à 56. Donc pour ceux qui ont leur Bible, Luc 8, 40 à 56. À son retour, donc là nous sommes à Capernaum, cette ville où Jésus était souvent et a fait de nombreux miracles. Il revenait de l'autre côté du lac de Galilée, il était allé à Gadara. Gadara, c'était un endroit où il y avait en fait des populations qui n'étaient pas juives. Donc il revient de cet endroit, et là il accoste, et à son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jaïrus. Il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Et son hémorragie s'arrêta immédiatement. Et Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché. » Je ne sais pas s'il l'a dit sur ce ton-là, hein. Je ne saurais pas vous le transmettre. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent, « Maître, mais la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Et voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, malheureusement pour elle, la femme vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit, « Mais sois en paix. » Non, « Ma fille, prends courage. » C'est une version. « Ma fille, prends courage ou sois en paix. Ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. » Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit, « Mais ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, elle dort. » Ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il les fit tous sortir, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi !» Son esprit revint en elle et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Donc nous voyons ces deux personnes, à commencer par Jaïrus. Ce père qui est un responsable de la synagogue, un chef de la synagogue. Ce n'est pas forcément un rabbin, parce que dans la synagogue, ceux qui étaient notables, ceux qui étaient responsables, ça pouvait être des personnes qui avaient une autre situation, qui étaient lettrées, qui avaient une certaine culture. Par exemple, Joseph, probablement qu'il pouvait avoir ce statut-là, parce qu'il était charpentier. Et charpentier, à l'époque, c'était ingénieur. C'était des ingénieurs de maintenant. Et donc, c'était des personnes vers qui on allait pour poser des questions aussi quand le rabbin n'était pas là ou quand il n'y avait pas de rabbin disponible. Donc voilà, donc Jaïrus, c'est un homme qui a un certain statut. C'est un homme qui prend des responsabilités. C'est un homme qui honore Dieu. Je ne sais pas, quand vous lisez, moi, Jaïrus, il m'apparaît plutôt sympathique. C'est quelqu'un, on peut éprouver de la sympathie pour lui. C'est un homme qui est bien sous tout rapport. C'est un homme sans doute honnête. Mais malgré tout, le malheur frappe à la porte. Ce n'est pas parce qu'on a une vie où on honore Dieu que rien ne peut se passer, qu'on ne peut pas vivre d'épreuves, que Dieu n'est pas une assurance tout risque. Et malgré sans doute la latitude très bonne dans laquelle Jaïrus est avec Dieu, il y a quelque chose de terrible qui se passe dans sa vie, qui se passe dans sa vie en tant que parent. Et pour un parent, c'est terrible. N'importe quel parent se dit, mais voilà, l'ordre logique des choses, c'est que nos enfants, ce soit après nous qu'ils meurent, ce soit qu'on parte avant eux. Et là, pour Jaïrus, c'est le contraire qui se passe. Et c'est sa fille, son unique fille. Et finalement, toutes ces angoisses qu'il pouvait avoir en tant que parent, qu'on peut avoir en tant que parent, là, elles sont en train de se réaliser. Sa fille est sur le point de mourir. Quel recours il a ? La situation lui échappe totalement. Tout ce qu'il peut faire, c'est venir vers cet homme qu'il a vu dans cette ville de Capernaum faire des miracles, comme il n'a jamais vu avant. Et il est chef de la synagogue, il connaît les Écritures. Et sans doute qu'il se dit, mais cet homme, ça ne peut être que le Messie. C'est vraiment le sauveur du monde qui a été envoyé. Et là, il arrive, il se prosterne à ses pieds, il tombe à ses pieds. Il y a des situations comme ça où vraiment on ne peut plus compter que sur Dieu. Et c'est ce qu'il fait. Il ne compte plus que sur Dieu. Et là, qu'est-ce que fait Jésus ? Il s'arrête. Alors que la foule, elle le presse de tous côtés. C'est même une traduction, ça pourrait être que la foule, elle l'étouffe. Une foule qui est... On peut lire dans un évangile qu'en fait, c'est une foule... Certains étaient en train de lui poser des questions. Les pharisiens, les autorités religieuses étaient en train de l'assaillir de questions, de lui demander, mais pourquoi ils font ça, tes disciples, là ? Ils ne devraient pas, selon la loi. C'est une foule qui... Ce verbe-là, étouffer, c'est le verbe qu'on retrouve quand il est question des racines qui viennent étouffer, qui viennent empêcher la parole qui a été semée de se développer, de pousser. Et ces racines qui symbolisent en fait les soucis de la vie. C'est une foule qui est pleine de questions, pleine d'inquiétudes. C'est une foule qui est revendicatrice. C'est une foule qui peut-être prend Jésus pour un objet, un produit de consommation. Des fois, on peut être dans cette attitude avec Dieu, où Dieu, ce n'est pas forcément une personne, mais c'est un objet, c'est celui qui doit nous apporter absolument ce que l'on veut. Mais Jaïrus, et c'est pour ça que Jésus s'arrête, Jaïrus, il n'est pas dans cette attitude-là. Jaïrus, il est dans une confiance. Pour Jaïrus, Dieu, c'est vraiment une personne. C'est vraiment une personne qu'il respecte, qu'il se considère. Et c'est pour ça que Jésus se sent touché. Jésus se sent respecté. Jésus, qui est Dieu incarné, se sent respecté, touché en tant que personne. Et là, Jésus s'arrête. Là, Jésus s'arrête et donc il lui dit, ma fille est sur le point de mourir, s'il te plaît, viens. Et tout de suite, Jésus, il n'y a pas de souci, il l'accompagne, il y va, avec la foule qui continue de le presser. Sauf, à un moment, une femme se glisse dans la foule et là, elle vient le toucher. Une femme qui est malade depuis 12 ans. Et de nouveau, Jésus s'arrête. Et là, qu'est-ce que fait Jaïrus ? Ce qui est important, c'est de voir là, la réaction de Jaïrus. Parce que quand même, sa fille est sur le point de mourir. Est-ce que Jésus, il a le temps de s'arrêter pour une femme qui est malade depuis 12 ans, qui quand même peut attendre son tour, quoi ? Elle a attendu 12 ans, elle peut attendre... Lui, sa fille, elle est en train de mourir. Et qu'est-ce que Jaïrus pourrait faire ? Il pourrait se dire, mais ça va pas, Jésus, mais qu'est-ce que tu fais ? Ne t'arrête pas, ma fille, elle va mourir. Il pourrait essayer de contrôler les choses. Il pourrait céder à la panique. Vous voyez, c'est ça quand on essaye de contrôler les choses. Mais non, Jaïrus, peut-être qu'il le pense, mais en tout cas, il ne l'exprime pas. Il décide de rester dans la confiance. Il décide de rester dans la confiance. Et là, et on va s'arrêter un petit moment sur cette femme. Sur cette femme qui d'ailleurs, même si c'est pour des raisons différentes, elle se retrouve dans une situation similaire à Jaïrus. Depuis 12 ans, elle a des pertes de sang. En fait, elle a des règles qui continuent tout le temps. Et elle a consulté des médecins et des médecins et des médecins. Elle a dépensé plein d'argent. Et malgré tout, rien n'y fait. Elle est toujours malade. Et le pire pour cette femme, non seulement quel homme déjà va vouloir d'elle parce que voilà, elle ne peut pas porter d'enfant. Et en plus, d'après la loi, elle est impure. Elle est impure. Elle n'a pas le droit d'être ici. Elle n'a pas le droit d'être dans la foule. Parce que si les personnes qu'elle va toucher vont être impures à leur tour. Et elle, elle ose venir toucher Jésus. Pourquoi et où est-ce qu'elle vient le toucher, Jésus? Où est-ce qu'elle vient le toucher, Jésus? Sur la frange de son manteau. C'est pas n'importe quel endroit. Parce que sur la frange de son manteau, un juif, tout bon juif qui se respecte, devait porter un habit qui s'appelle le talit de prière. Et surtout, en fait, il devait porter aux quatre coins de cet habit, c'est une pièce rectangulaire, tu peux mettre la diapo? C'est une pièce rectangulaire, c'était peut-être un petit peu plus long, mais qui portait aux quatre coins des franges, des fils qu'on appelle les tzitzit. Et les tzitzit, et en fait les tzitzit, il y en a 600. Donc ils sont répartis en quatre, il y en a 600. Et si on compte les fils et les nœuds pour les relier, les 8 fils et les 5 nœuds pour les relier, 600 plus 8 plus 5, ça fait 613. C'est le nombre des commandements. Les tzitzit symbolisent la loi. Et c'est ça que vient toucher cette femme. C'est ça que vient toucher cette femme. Ce qu'elle vient toucher, c'est la loi qui restaure la vie, la loi de Dieu qui restaure mon âme, comme dit le psaume 19:7. Mon âme, là, c'est toute la personne. C'est pas seulement la volonté et les émotions. Là, c'est toute la personne. Elle vient toucher ça. Les tzitzit, ils sont bleu ciel. Elle vient toucher le ciel. Elle vient toucher Jésus à l'endroit où vraiment il peut, il est atteint dans son cœur. Parce que quand Jésus dit, mais qui m'a touché? C'est pas une question physique. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il peut sentir si je touche Estelle ici? Elle va rien sentir. Mais lui, il sent qu'il a été touché. C'est pas physiquement, c'est dans son cœur, c'est spirituel. Il a été touché où lui, là où il est attaché au Père. Ça montre l'attachement de l'hébreu à la loi de Dieu et à Dieu. C'est là qu'il est touché, Jésus. Et surtout, là où il est touché, là où cette femme elle manifeste une confiance envers Dieu, envers Jésus, c'est qu'elle accomplit. Il y a l'accomplissement d'une parole dans Malachie 3:20 qui dit du Messie qu'il sera le soleil de justice qui portera la guérison dans ses rayons. Les rayons, les voilà. Les rayons, ce sont des prolongements. Ce sont des prolongements du vêtement. Les rayons, ce sont des prolongements du soleil. Donc, qu'est-ce que fait cette femme quand elle vient toucher Jésus? Elle vient dire, mais ouais. C'est toi le Messie, c'est toi le Sauveur du monde. C'est ça qu'elle est en train de proclamer et c'est là que Jésus il est touché. De nouveau, contrairement à la foule, mais comme Jaïrus, elle est dans un rapport avec Dieu de personne à personne. Elle croit en qui est Dieu, elle est en train de proclamer qui est Dieu. Je crois que tu es ce Dieu qui porte, ce Messie qui porte la guérison, qui apporte la guérison. Et c'est ça que je viens toucher. Et effectivement, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe pour cette femme qui a décidé de faire confiance. Et vous voyez, quand nous faisons confiance à Dieu, ce qui peut se passer. Mais ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Et pour Jaïrus, ce n'est pas fini. Jaïrus, pourtant, il fait confiance. Mais il y a des embûches, il y a des ennemis, il y a des obstacles qui se dressent sur le chemin. Un homme arrive et lui dit, bon, écoute, ta fille, elle est morte. Ça n'importe plus le rabbi, n'importe plus le maître, ça ne sert plus à rien. Ta fille, elle est morte. Qu'est-ce que tu as à vouloir croire qu'il va se passer quelque chose? La réalité, c'est que ta fille, elle est morte. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Ça, c'est la réalité. Donc, laisse tomber, ça ne sert à rien. Et quand on veut être dans la confiance en Dieu, qu'est-ce qui vient se dresser sur notre route? On peut commencer à douter. Il y a des choses qui veulent nous faire croire que ça ne sert à rien. Et quand Jésus arrive à la synagogue, à la maison de Jaïrus, là, il y a toutes ces... Qu'est-ce qu'il vient dire ? Il vient dire, mais elle n'est pas morte, elle dort. Et là, tout le monde se moque de lui. Et de nouveau, c'est la même force, c'est le même esprit qui est contraire à Dieu qui se manifeste. L'incrédulité. C'est l'incrédulité. Et quand on est dans une situation qui est difficile et qu'on se met à genoux devant Dieu et qu'on veut vraiment lui faire confiance, c'est normal. C'est normal d'avoir des combats. C'est normal qu'à un moment, le doute, il vienne. Le doute, ce n'est pas l'incrédulité. C'est tout à fait humain de douter. Seulement, veille à ce que ton doute ne se transforme pas en incrédulité. L'incrédulité, c'est dire que Dieu, il ne peut plus rien pour toi. Ce n'est pas ce que dit la parole. Dieu est la vie. Dieu a victoire sur la mort. L'incrédulité, ça sert quoi ? L'incrédulité, en fait, ça sert la mort. Parce que qu'est-ce qui se passe quand Jésus arrive ? Qu'est-ce qu'il décide de faire ? Et il fait dégager tous ceux qui sont en train de pleurer, en train de se frapper la poitrine, parce que c'est comme ça qu'on exprime le deuil. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il dit, tout le monde dehors. C'est contre la résignation. Le fait de se résigner face à la mort que Jésus se dresse. C'est ça que l'incrédulité fait. Quand je commence à être incrédule, quand je commence à dire « Mais non, Dieu, il ne peut rien de toute façon. J'y crois pas. » Ben là, ça laisse du terrain à la mort. Et c'est pour ça que Jésus fait dégager tout le monde. S'il ne veut pas qu'il y ait d'incrédulité, c'est pour ça qu'il ne garde que les parents qui ont autorité spirituelle sur la fille, sur la fillette, et qu'il ne garde que Pierre, Jacques et Jean. Parce que Pierre, Jacques et Jean sont les disciples qui sont les plus proches de Jésus. Ce sont les seuls qui ont été à la transfiguration. Et sans doute, ce sont ceux qui sont dans une foi qui ne fera pas obstacle à ce que Jésus veut faire, à la vie de Dieu qui, là, veut se manifester. Et une fois que Jésus, justement, a fait partir tout ce qui peut être source d'incrédulité, tout ce qui peut donner du terrain à la mort, là, il vient vers la fille, il lui prend sa main et il lui dit, « Fillette, je te le dis, lève-toi. » Et là, ça se produit. Vous n'avez pas l'air d'y croire. Oui, ça se produit. Là, la vie de Dieu se manifeste. Quand cette femme dit Jésus, quand Jésus dit quelqu'un m'a touché, en fait on pourrait traduire aussi par quelqu'un m'a allumé. C'est le même verbe pour dire qu'on devient allumer une lampe. Quelqu'un m'a allumé. Et il dit, je sens que quelqu'un m'a allumé parce qu'une force est sortie de moi. Cette force, en grec, c'est dynamis. C'est ce qui a donné dynamite. Quelqu'un m'a allumé parce que je sens que la dynamite a été allumée en moi. Et c'est ça qui se passe, mes amis, quand nous restons dans la confiance avec Dieu, quand nous maintenons la confiance avec Dieu, malgré la bataille qui peut faire rage en nous quand la situation elle est difficile, quand il y a des choses comme ça qui nous échappent, des choses sur lesquelles on n'a pas du tout de maîtrise. Là, ce qui est en train de se passer, c'est comme ça que la dynamite de Dieu, elle peut exploser. Amen. Et je voudrais juste, on a connu, voilà, tout au long de l'Église, on a connu comme ça des manifestations de Dieu formidables. Voilà, les réveils, on connaît des guérisons incroyables, on connaît des délivrances incroyables. On connaît des moments, malgré toutes les épreuves que l'on peut vivre, malgré les choses qui sont difficiles dans la vie, on connaît voilà, des incursions du royaume de Dieu qui sont waouh, et y compris dans cette église. Je voudrais donner juste un petit exemple avec parce que c'était arrivé dernièrement avec Joanie. On avait prié pour Micheline, qui Micheline Terra, pour ceux qui la connaissent, qui a des migraines, mais depuis des années. Des migraines depuis des années. Et on prie pour elle. Et pendant tout le dimanche, toute la journée, elle n'a pas eu mal. Ça faisait des années qu'elle n'avait pas connu ça. Hein, merci, Joanie. Et parce que moi, j'ai continué de prier. Ouais, parce que voilà, ça a duré juste un jour. On aurait pu se dire, mais... franchement, Seigneur, tu aurais pu la délivrer complètement, quoi, juste un jour. Juste un jour. Mais non, comment est-ce qu'on doit prendre ce genre de choses? Waouh, Seigneur, tu es intervenu et une journée, ta grâce est manifestée de cette manière. Et ça veut dire, et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, mais continuez pour qu'il y ait plus de journées, justement. Continuez pour que ce mal de tête, il parte complètement. Et ça, c'est vrai pour tout, pour toutes les situations que l'on vit. Qui est-ce qui veut allumer la dynamite de Dieu? Moi, je veux que la dynamite de Dieu soit allumée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire être dans un rapport de confiance avec Dieu, où vraiment, on est avec lui. Il est là avec nous en tant que personne. C'est pas un objet. C'est pas une assurance tout risque. C'est lui qui décide comment il fait ce qu'il fait, tout en sachant que Dieu nous aime. Et c'est de ça dont nous n'avons pas à douter. Et c'est à partir du moment où on est dans ce rapport de confiance-là, et que quand on sent, on voit aussi qu'on essaie de contrôler les choses, que ce soit pour notre vie ou que ce soit pour la vie des autres, que l'on se repent de ces choses et on fait en sorte que ce soit la confiance qui prenne de la place et pas le contrôle. Et quand il y a ces ennemis comme l'incrédulité qui se dresse sur notre chemin, quand il y a la mort qui se dresse sur notre chemin, parce que quand on prie pour une situation, quand on est dans une épreuve, et puis finalement il y a des choses qui se passent moins bien, où on se dit mais j'ai prié et pourtant finalement, voilà, il y a ça qui se passe. C'est la mort qui se manifeste. Mais ça n'en enlève rien au fait que Dieu a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois dans la situation où tu es que vraiment, peut-être ça fait longtemps, tu cries à Dieu et peut-être il y en a qui ont besoin parmi vous d'être renouvelés ce matin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier maintenant. Si tu as été touché, si tu sens que Dieu est en train de te parler là par rapport à une situation que tu vis, ben, je t'invite à te lever à ta place. Si tu sens que tu as besoin d'être renouvelé dans une situation comme ça, par rapport à une situation qui t'échappe, je t'invite à te lever à ta place. Si tu n'as pas forcément besoin d'être renouvelé, mais voilà, il y a quelque chose contre lequel tu batailles et tu veux vraiment être maintenu dans cette confiance en Dieu, je t'invite à te lever à ta place. Et on va prier ensemble, les amis. Et on va prier aussi dans l'unité. Et ceux qui sont d'accord, ça serait bien que ce soit tous, tenez-vous la main. On va se tenir la main et on va prier en église. On va prier dans l'unité. On va déposer devant Dieu ces situations sur lesquelles qui nous échappent, sur lesquelles on n'a pas de maîtrise. Et tout ce qu'on peut faire, comme Jaïrus qui est tombé aux pieds de Jésus, tout ce qu'on peut faire comme cette femme qui a osé aller toucher les pans de la robe de Jésus, tout ce qu'on peut faire, c'est être devant Dieu. Et maintenant, on va tous élever la voix et vous remettez votre situation. N'ayez pas peur, si vous avez besoin de prier fort, bah faites-le, soyez pas timide. Allez-y, touchez le cœur de Dieu, touchons le cœur de Dieu ensemble. Touchons le cœur de Dieu.